empower the woman, you empower the nation. No longer shall we act mistaken, awaken. Seeing that we now know what they say ain't so. Will you stay or go?
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir à tous, il est 19h, l'heure de retrouver votre dose hebdomadaire de 9e art. Intention générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Effectivement, nous sommes lundi, il est 19h, l'heure de votre case de Seb favorite, le moment de retrouver le meilleur du 9e art, le meilleur du manga, du comics et du franco-belge, propulsé directement dans vos cerveaux par le truchement des ondes radiophoniques. Ce soir, une émission, encore une fois, enregistrée depuis mon domicile, puisque les accès du studio sont un petit peu complexes. Une émission donc réalisée tout seul, et une émission sans doute un petit peu particulière, puisqu'elle sera faite au fil de l'eau, avec un taux de préparation assez faible, dans un format qui, je l'espère, sera quand même assez convivial et peut-être un petit peu plus souple que ce qu'on a l'habitude de faire. J'espère que c'est un format qui vous plaira. Je suis en train de remodeler un petit peu toute la case de Seb pour pouvoir vous proposer du contenu de manière plus régulière, et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours sur notre page Facebook. C'est à ça que ça sert. On essaie de répondre au maximum à tous les commentaires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis que vous allez avoir de saines lectures, de bonnes lectures, et que les idées que je vais vous proposer ce soir, les idées de lecture, vont vous plaire. Attention, on commence quand même par des news. Avait loupé passé. Le 3 juin dernier, il y avait une soirée spéciale Blanche Gardin sur le Canal Plus, qui proposait de réunir l'humoriste que tout le monde connaît pour son franc-parler et son humour extrêmement incisif, ainsi que le dessinateur Fab Caro. Cette proposition avait été faite par Blanche Gardin à Fab Caro, qui lui a demandé de la dessiner, stylisée sur scène, afin de pouvoir animer l'enregistrement sonore de son spectacle Bonne Nuit Blanche, ce qui permettait d'avoir de créer le premier stand-up animé. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui rendait bien. En tout cas, l'idée est extrêmement intéressante. Si vous avez la possibilité de le voir de manière décalée, ce serait très très intéressant. Et si vous avez eu la chance de voir ce spectacle, ce stand-up animé, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre page Facebook. Ça nous permettra de pouvoir en discuter directement avec vous. Autre news, les premières critiques de Snowpiercer sont sorties. L'adaptation en série avec Jennifer Connelly et David Diggs, diffusée sur la plateforme Amazon, ne fait pas l'unanimité, puisque on reproche principalement à la série de casser cette espèce de critique d'ascension sociale, puisqu'on passait, pour rappeler un petit peu le contexte, c'est un train à grande vitesse qui est lancé dans un monde post-apocalyptique qui subit une nouvelle ère glaciaire, et l'image du train renvoie en fait l'ascension sociale. Les pauvres sont au fond, les riches sont à l'avant, et il est très dur d'avancer, de passer de wagon en wagon et de gravir en fait les échelons de l'ascension sociale jusqu'à l'avant du train. Et cette progression est un petit peu cassée, puisque on se retrouve avec une espèce d'histoire de détective dans cette série. Alors je l'ai pas encore regardé, je peux pas vous faire un vrai résumé. Je prends juste les retours qu'on a eu en direct des États-Unis et puis de France là depuis la sortie de la série. Et ce détective a une espèce de passe-droit, ce qui lui permet en fait de franchir les différents échelons pour pouvoir mener son enquête. Et du coup, ça casse un petit peu cette hiérarchisation, on va dire, du train, qui fait que c'était extrêmement dur de passer sur les wagons supérieurs. On se retrouvait franchement confiné sur son wagon et sa situation sociale, chose qui est un petit peu brisée. Et visiblement, l'opération voulue grâce à ce détective, c'était de pouvoir visiter le train de manière plus ponctuelle et plus complète dans son entièreté. Et ça casse un petit peu l'analogie de l'ascension sociale. Après, la série, pour l'instant, a l'air d'être franchement quand même très belle et est plutôt encensée dans ce sens, malgré une narration qui tourne plutôt autour d'une enquête policière que de la critique de notre monde actuel. En tout cas, ce sera l'occasion de la découvrir, puisque c'est une série qui, à mon avis, va quand même marquer un petit peu son temps. Autre news, on repart du côté du Japon avec Gatara Man. On avait parlé de Gatara Man avec c'est Tony qui nous avait chroniqué son manga Mitochon Armageddon, un truc extrêmement créatif et fun. Et Gatara Man a décidé de faire une nouvelle histoire. Il narre le périple d'une éditrice de manga pour aller récupérer le dernier manuscrit de l'auteur dans son appartement. Et à la fin de chaque chapitre, les lecteurs ont la possibilité de faire des commentaires pour indiquer les choix que doit faire cette éditrice. Et à partir de ces idées, l'auteur Gatara Man va dessiner la suite de l'histoire, une sorte de manga participatif qui peut extrêmement bien fonctionner. Alors quand on sait le style un petit peu extrêmement je vais pas dire brouillon, parce que brouillon c'est toujours péjoratif, mais extrêmement gratté, extrêmement tâche de se mettre du manga comique grotesque et puis outrancier, comme Tony a si facilement pu le décrire, eh bien on va se retrouver à avoir quelque chose d'assez particulier et d'assez unique, puisque les lecteurs vont avoir créé en fait ce manga au fur et à mesure de l'histoire, sous le trait de Gatara Man, avec des histoires complètement déjantées. Je pense qu'on pourra retrouver cette histoire qui s'appellera Enshusha Momi no Daiboken. Excusez-moi encore pour mon accent japonais. On devra retrouver cette histoire aux éditions Akata, qui ont publié Mitochon Armageddon et d'autres titres de Gatara Man. On continue côté manga avec l'annonce par Pika de la sortie de l'artbook Dreamland, la série créée par Renaud Lemaire, on va dire l'ancêtre du manfra. J'aime pas trop ce mot manfra, mais du manga français Dreamland, ce manga qui propose en fait de voir le héros évoluer au contact du monde des rêves, un monde très détaillé et avec des règles qui fonctionnent bien, qui fait que ça fait un très bon manga. Et cet artbook devait avoir une sortie prévue à l'origine le 24 juin et elle est finalement décalée au 14 octobre dans toutes les bonnes librairies. La couverture est plutôt alléchante avec une espèce d'ombrage blanc avec des volutes de feu et les personnages des Lucky Stars qui sont de manière très dynamique avec des poses qui sont plutôt stylées. Des poses très dynamiques qui peuvent rappeler celles de Jojo Bizarre Adventure. Il faut savoir que cet artbook était annoncé au départ avec un format de 200 pages. L'évolution a été annoncée jusqu'à 300 pages et ce sera finalement un bouquin de 380 pages avec plus de 600 illustrations originales ou des retravaillées, des pages de personnages, des fiches de chronologie, des lieux détaillés, donc une vraie bible de ce manga Dreamland. On aura de belles dimensions puisqu'on sera sur 23 cm sur 28,5 pour un prix de 35 €. C'est quelque chose qui va être un petit peu onéreux, mais pour 380 pages 335 €, c'est pas énorme non plus. Donc n'hésitez pas à surveiller vos librairies dès le 14 octobre, c'est aux éditions Pika. on reste toujours du côté du manga. On a déjà abordé les mangas un petit peu originaux et des mangas un petit peu tendancieux. Je sais pas si vous vous rappelez de World's End Harem. C'était un manga qui montrait une fin du monde apocalyptique où les hommes avaient tendance à mourir et de nombreuses années plus tard, deux hommes cryogénisés sont les deux seules personnes capables de procréer sur Terre. Et c'était un truc assez bizarre, puisqu'on avait beaucoup de fanservice, on avait beaucoup de choses qui fonctionnaient de manière un peu érotisante. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce héros qui se retrouve être un des seuls hommes procréateurs dans ce monde où toutes les femmes sont limite à ses pieds, et lui, la seule femme qu'il veut voir, c'est la femme de ses rêves, une amie à qui il n'a pas pu déclarer sa flamme avant de se faire cryogéniser. Ce manga-là avait eu le droit à un spin-off qui s'appelle World's End Harem Fantasy, qui reprenait un peu le concept avec une sorte de magie basée sur l'excitation sexuelle. Et il faut savoir que ce manga va avoir droit à un nouveau spin-off où là, on va prendre le contre-pied complet, puisque cette adaptation ce seront des garçons qui vont se battre les uns contre les autres pour une seule et unique femme. Donc le fanservice sera sans doute inversé avec de beaux éphèbes plutôt que des femmes plantureuses en petite tenue. Donc à voir ce que ça va donner. C'est suffisamment créatif et drôle pour arriver à faire quelque chose de fun. Ça sort au Japon le 26 juin prochain dans le Shonen Jump. Ça peut être très drôle et faut voir comment c'est traité. Alors toujours un peu japonisant, mais plutôt français. La bande dessinée de Hub Oko vit très bien sa vie aux éditions The Red Joker en tant que jeu de société, en tant que jeu de figurines. Et il faut savoir qu'il existe une nouvelle version actuellement en financement participatif sur la plateforme Kickstarter qui s'appelle Oko Oni Hunters. Il vous reste 46 heures avant la fin. Ça va être très juste, 46 heures au moment où j'enregistre cette émission. Si vous souhaitez participer, vous avez moyen d'avoir un jeu qui va être à mon avis extrêmement intéressant s'il est basé sur les mêmes mécaniques de jeu que les précédents, le but étant bien entendu de retrouver des Oni qui se sont incarnés tout en évitant de se faire trucider. Il faut savoir que le jeu est entièrement illustré par Hub, que de nouveaux personnages ont été créés exclusivement pour le jeu et que ça donne quelque chose d'extrêmement unique qui va plaire vraisemblablement déjà aux fans de la série Oko, mais également aux fans de jeux de plateau, puisque le jeu intègre des mécaniques plutôt sympathiques. Et The Red Joker est une maison d'édition qui fonctionne plutôt bien en termes de jeux de société, et du coup c'est à surveiller de près si vous aimez à la fois Oko et le jeu de société. Je rappelle que le financement est en place sur la plateforme Kickstarter. Et puis la dernière news pour ce soir, c'est l'annonce par la Warner de la diffusion sur HBO Max en 2021 pour l'ouverture du fameux Justice League Snyder Cut. Alors on pourrait imaginer que la Warner se dit tiens, mais pendant le confinement, plutôt que de ne pas faire de tournage, on peut quand même faire du montage. Dis donc Zach, est-ce que tu ne nous montrais pas au final ce Snyder Cut pour qu'on puisse le diffusé sur notre plateforme HBO Max quand elle va sortir. Ce serait une locomotive pour cette chaîne de manière assez excellente, comme le Mandalorian a pu l'être sur Disney+. Donc on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur ce que ça va être. On pourrait imaginer un long métrage de 4 heures ou, je ne sais pas, quelque chose de découpé en plusieurs parties, 6 chapitres, c'est des choses qui sont actuellement annoncées. Donc 6 chapitres d'une heure, je ne sais pas, ça peut être une série qui fonctionnerait bien et du coup ça peut être intéressant à voir ou pas. Tout dépend si vous avez envie de découvrir une autre version très différente de celle de Joss Whedon, de ce film qui a fait couler quand même déjà beaucoup d'encre. Ce sera l'occasion d'en reparler et de voir si on peut donner une seconde vie à ce DC Universe cinéma. C'est tout pour les news, on va pouvoir passer aux chroniques pour la suite, ne quittez pas. C'est tout pour les news, on se laisse une courte pause musicale avec la reprise en version métal par Leo Moraccioli que vous pouvez découvrir sur sa chaîne YouTube Frog Leap Studio. Il fait beaucoup de reprises de morceaux en version métal et là c'est une reprise que j'ai trouvé particulièrement efficace, c'est la reprise de Hot Stuff.
101.5 FM.
On se retrouve sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'entendre Hot Stuff, une reprise métal de... Vous venez d'entendre Hot Stuff, la reprise en version métal par Léo Moraccioli. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube. C'est vraiment sympa, c'est plutôt efficace ce qu'il fait. Et ça reste vraiment funky à découvrir. Allez, on attaque cette sélection au fil de l'eau avec un petit ouvrage d'humour absurde aux éditions Patakès, Meurtre à la compta de David de Twin et James. C'est un petit opus presque au format carré, couverture souple, avec un dessin un petit peu humoristique, enfin même très très humoristique. Et cela nous raconte l'histoire de deux enquêteurs qui vont aller enquêter sur le meurtre de Paul le comptable. Et du coup, c'est une plongée dans l'humour absurde et complètement déjanté de l'entreprise, à base de blagues dans le secteur de l'entreprise et des blagues sur la police, avec deux policiers qui sont absolument aussi incompétents l'un que l'autre, quand ils ne sont pas incompétents tous les deux ensemble. Des choses qui peuvent être très drôles, notamment les guerres de service, les amours impossibles entre deux personnages. Je ne veux pas vous gâcher les gags, et ça fonctionne plutôt bien, c'est assez rigolo, ça se laisse découvrir de manière assez simple. On ne va pas en attendre énormément non plus, c'est un petit opus qui se lit extrêmement vite, il y a une centaine de pages, et c'est assez drôle, hein, ma foi. On est sur un petit gaufrier de 4 cases à chaque fois, un gag par page, avec une histoire qui se déroule au fur et à mesure, et ça fonctionne de manière assez agréable. On se laisse emporter dans cette enquête, essayer de comprendre ce qu'il en est. Alors, faut savoir que c'est de l'humour absurde, et que si vous cherchez une vraie logique à cette histoire, abandonnez tout de suite, ce n'est absolument pas le but de cette expérience de meurtre à la compta. Donc un petit opus sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder énormément, mais vraiment, si vous êtes comptable ou policier, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Si vous êtes fan d'humour absurde, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Et si vous êtes fan de James ou de David de Twin, allez-y aussi, hein, c'est fait pour vous. Et si vous n'êtes fan ni de tout ça, n'hésitez pas à le découvrir, c'est quand même une bonne occasion de se marrer sur tous les petits gags. Je redonne les références. Meurtre à la compta de David de Twin et James, c'est aux éditions Patakès. Je continue tout de suite avec un ouvrage un peu plus imposant, puisqu'il s'agit de Miss Charity, le tome 1, L'enfance de l'art, de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Mario de Muraille. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres, et le roman d'origine était publié aux éditions de l'École des loisirs. L'histoire, c'est celle de Charity, une petite fille de la bonne société anglaise des années 80, alors les années 1880. Mais voilà, comme toutes les filles de son âge, elle est quasi invisible pour les adultes qui l'entourent et doit tout faire pour que ça dure. Alors, afin de surtout pas déranger son très occupé de père et surtout pas importuner sa très occupée de mère, la jeune fille se réfugie en compagnie de Tabitha, sa fantasque et superstitieuse bonne, et Blanche, sa jeune perceptrice, qui semble de prime abord un peu dépassée par cette enfant très curieuse. Alors, pas curieuse dans le sens étrange, mais curieuse d'expérience, curieuse de tout ce qui l'entoure, curieuse et avide de connaissances. Afin de tromper son ennui, elle va se mettre à étudier ce qui lui passe sous la main. Que ce soit les livres de son père, interdits en temps normal, mais comme l'a si bien compris la jeune Charity, on ne peut pas nous refuser ce que l'on ne demande pas. Il suffit juste donc de se servir. Des livres, donc, qu'elle va apprendre par cœur, mais la jeune demoiselle se lancera également dans l'élevage et le dressage de souris, de lapins et même d'escargots. Elle documente et se renseigne les expériences qu'elle réalise utilisant une rigueur toute scientifique et développant un talent certain pour le dessin. Elle a plusieurs petits carnets, elle note au fur et à mesure tout ce qui se passe, tout ce qui évolue, les moindres changements, les moindres expérimentations, avec une précision assez folle. Lors d'un voyage obligatoire chez de la famille, elle va découvrir plus amplement la nature environnante et toute la beauté qu'elle renferme. Elle découvrira également à cette occasion des sentiments amoureux à l'encontre d'un de ses cousins. Alors je ne vous en dévoile pas plus. Il faut savoir que le roman de Marie-Aude Muraille était à la base une biographie imaginaire de Béatrix Potter, à qui l'on doit, le fabuleux lapin dessiné. Il faut savoir que le dessin là est vraiment très très beau. On a un côté presque aquarellé. Alors je suis pas très très bon, hein, je n'ai pas l'expertise de Tony, mais on a vraiment quelque chose de très beau, très fin, avec beaucoup de blanc qui permet d'avoir des petites taches de couleur au milieu qui sont de plus en plus intéressantes et plus importantes, avec des belles pages notamment sur des représentations des carnets de la jeune Béatrix, la jeune Charity, pardon, c'est pas la même. Attention, ne disons pas de bêtises, mon cher Seb. Et c'est vraiment très 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 sympa, c'est vraiment très beau. Loïc Clément a une façon de raconter les histoires de manière assez... avec une certaine tendresse, même quand ce sont des passages pas faciles. Autant dire que ne pas vous dévoiler toute l'histoire, mais les animaux que recueille la jeune Miss Charity n'ont pas tous un destin enviable. Et même ces passages qui sont un petit peu cruels sont faits de manière assez naturelle et ne risque pas de choquer les enfants, et c'est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment en fait à lire cet opus, et j'attends la suite avec impatience. Savoir que ma fille de 6 ans l'a lu aussi. Alors c'est pas elle qui en parle ce soir, hein. Je lui laisserai la possibilité de parler d'autres albums plus tard, mais vraiment ça passe très bien, même à partir de 6 ans. Si votre enfant est à l'aise au niveau lecture, faut pas hésiter, ça fonctionnera bien. Et même les passages un petit peu plus exigeants, un peu plus cruels, c'est aussi l'occasion pour vous de discuter avec votre enfant de ces petites choses de la vie. Je rappelle les différents éléments. C'est Miss Charity, l'enfance de l'art, de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Muraille, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. On peut se retrouver dans quelques instants après Sin I Still Have Me. Harder path.
Radio G 101.5 FM.
C'était Sin, I Still Have Me. Vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb. On est reparti pour de nouvelles chroniques. On va se faire une petite pause manga avec deux mangas que j'ai découverts, tous les deux publiés aux éditions Delcourt Tonkam. Deux mangas qui pourraient avoir la même histoire et qui en fait sont complètement différents, et ce qui est plutôt drôle. On va commencer avec Harry Fureta de Zero à Hero. C'est un manga de Roga, c'est une œuvre originale de Ryo Shirakome et un chara-design de Takaya qui, ça fait bizarre de le dire comme ça. Alors, il faut savoir que c'est à la base d'une série de nouvelles fantastiques nées sur le web. Ces deux mangas sont des isekai, hein, c'est-à-dire, je rappelle un petit peu l'histoire de l'isekai, c'est quelqu'un de notre monde qui se retrouve dans un monde fantastique ou un autre univers et qui va y devenir un héros en règle générale assez surpuissant. Harry Fureta, c'est un petit peu ça. On suit l'histoire de Hajime Nagumo, qui est un lycéen dans une école, et toute sa classe va se retrouver transportée dans un monde parallèle pour développer les compétences de héros. Ils sont considérés comme des héros en devenir et ils vont devoir intégrer des notions de magie, des notions de combat, des notions de RPG. Les isekai utilisent beaucoup en fait ces notions de RPG jeux vidéo, et ils vont chacun avoir des nouvelles compétences. Il faut savoir que Hajime était quelqu'un qui n'était pas très aimé dans sa classe, et dans ce nouveau monde il a une capacité de synergiste, c'est-à-dire qu'il est capable de créer ou d'enlever de la matière, une capacité qui n'est pas forcément très intéressante en combat. Et dans un passage d'entraînement, il va tomber dans un gouffre abyssal. Il faut savoir que ce gouffre, la particularité, c'est que plus tu descends bas, plus les monstres sont balèzes et violents. Hajime va se retrouver alors face à un monstre de très très gros niveau. Il va y en réchapper de peu, laissant son bras, et il va se retrouver dans une espèce de... Il va trouver moyen de prendre refuge dans une espèce de grotte, la refermant grâce à sa capacité de synergie, et il va s'évanouir. Et il va commencer à se dire bah, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour survivre, il faut que je fasse quelque chose pour devenir plus puissant, plus fort et m'en sortir. Il va commencer avec sa hargne à boire le peu d'eau qu'il trouve dans cette caverne, à manger le peu de nourriture qu'il va trouver, et il va se rendre compte que en ayant mangé cette nourriture, il ingère également les capacités des créatures qu'il a réussi à dévorer. Et petit à petit, Hajime va devenir extrêmement puissant et il va chercher à prendre sa revanche, puisqu'il est persuadé que le fait d'être tombé dans ce gouffre n'est pas le fruit du hasard, mais qu'on l'a bien poussé pour se débarrasser de lui. Alors, j'ai bien aimé le manga, hein. On est sur un dessin qui est plutôt classique, mais qui fonctionne bien. On est sur une narration qui est un petit peu déstructurée, puisqu'on a pas mal de flashbacks, on rentre in media res dans le bouquin. On a plein d'évolutions, c'est plutôt gore, les monstres sont stylés, ça fonctionne extrêmement bien. Et ça marche, hein. Le personnage, on le voit s'apitoyer sur son sort au départ, et puis on le voit progresser, on se dit mais... Ouais, c'est cool. En fait, le gars, il faut qu'il fasse quelque chose et on a vraiment envie qu'il fonctionne et qu'il s'en sorte et de comprendre pourquoi quelqu'un l'a poussé dans cet abysse et comment il peut devenir, effectivement, passer de ce statut de loser à ce statut de héros. Alors, il faut savoir qu'il existe une série animée. J'ai commencé à regarder quelques épisodes. Alors, je vous conseille largement la lecture du manga et très peu la série animée. Le premier épisode est extrêmement brouillon. On comprend assez peu ce qui se passe. Et puis, le choix de faire de redesigner les monstres avec une espèce de... Je sais pas, de couleur fluo. Alors, je comprends qu'ils voulaient les faire ressortir. Malgré le côté ombrageux qu'on peut avoir dans cet abysse, ça donne un résultat qui n'est pas phénoménal. Si vous aimez les isekai, c'est quelque chose qui va sans doute vous fonctionner pour vous, hein. Après, moi j'avoue que le manga, j'ai commencé par l'animé, J'ai lu le manga par la suite, lisez le manga, je le trouve beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je redonne les références, il s'agit d'Ari Furuta, de Zero à Hero, c'est un manga de Roga, avec une œuvre originale de Ryo Shirakome, et un character design de Takayaki, et c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Je continue toujours avec un isekai qui, ma foi, m'a un petit peu plus plu, qui est pas... C'est pas je ne critique pas hein, Ari Furuta, c'est pas du tout le même genre. L'histoire est à peu près la même. En fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Tsuyoshi Mukoda et qui va aussi être invoqué dans un autre monde pour devenir un héros de ce monde. Et puis, Tsuyoshi va se dire, il y a un truc très vite qu'il comprend pas. Il regarde. Alors, à la base, il y a des vrais personnages qui sont là, qui ont été invoqués. Puis lui, on a l'impression qu'il a été invoqué de manière random, ajouté ici sans vraie raison. Et très vite, il se dit, ah, il y a un truc qui est bizarre là. Là, il y a un coup politique qui est en train de se jouer. On va nous faire combattre des gens juste pour déclencher une guerre. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. Alors, il trouve le moyen de partir en loose day. Et il va se rendre compte qu'en fait, il a une capacité assez phénoménale, c'est faire des achats en ligne. En fait, il est connecté à une entreprise que je ne citerai pas, celle de Jeff Bezos, par exemple, qui ressemble un petit peu à ça. Et il peut commander, depuis ce monde médiéval fantastique, des objets et des denrées de notre monde. En fait, il peut commander un four, des poêles, et c'est un peu son truc. Il va se rendre compte qu'il est capable de cuisiner des choses, et que en cuisinant ces choses, les personnes qui l'accompagnent, les personnes qui vont manger ces choses, ont des statistiques beaucoup plus intéressantes, un petit peu comme si on avait, encore une fois, dans un jeu de rôle vidéo, ingérer une potion de soin ou ingérer un repas qui va booster les statistiques, rendre le personnage moins fatigué, rendre le personnage plus rapide, rendre le personnage plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plats sont suffisamment bons pour attirer l'attention d'un être terrifiant et assez unique, hein, une sorte de grand loup, j'ai pas retenu son nom, je crois que c'est un Fenrir ou quelque chose comme ça, qui veut dire, écoute, tu me nourris, sinon je te bouffe. Alors du coup, Tsuyoshi, il fait, ok, je vais te nourrir, et comme ça, tu me manges pas. L'autre, il fait, ah, d'accord, t'as accepté, bon, je deviens ton familier. Et du coup, il se retrouve, lui, personnage qui n'est pas vraiment équipé ni skillé pour le combat, avec un familier qui terrifie les moindres personnes qui vont le croiser, et ce qui est assez stylé. Et on a vraiment un personnage qui est hyper attachant, on a des choses qui sont vraiment vraiment sympas, et ça marche plutôt bien. Le dessin est plutôt fin, même si on a un côté un peu caricatural qui pourrait fonctionner, mais on a des scènes d'action qui sont plutôt stylées. Ça fonctionne bien. On retrouve pas mal de données du RPG. Si vous êtes joueur, ça va fonctionner pour vous. Si vous êtes habitué du jeu de rôle, vous retrouvez des choses comme que ce soit papier ou plateau, hein, ou papier ou jeu vidéo. Vous allez retrouver des choses assez similaires, comme le système de guild, comme le système de craft, hein, que Tsuyoshi utilise très régulièrement, et le système de quête. Enfin, c'est des choses qui sont géniales, parce que le personnage, en fait, va créer des recettes dans un monde médiéval fantastique, mais il est capable de créer des recettes style bœuf aux carottes, en ayant trucidé un minotaure qu'il a vu il y a quelques instants, grâce à ses petits camarades qui l'accompagnent. Et ça marche franchement bien, et allez-y, hein. Moi, je vous avoue que je n'ai pas boudé mon plaisir. Je me rends compte que je n'ai pas vraiment donné les références. Du coup, je vais donner enfin de chronique. Il s'agit d'Heroskill, achat en ligne. C'est le tome 1. C'est aux éditions Delcourt Tonkam. Et c'est dessiné par Akagishika. Scénarisé par Ren Eguchi. Et au character design, Maza. Alors, j'ai appris qu'il y aurait une chaîne YouTube qui reprend les recettes faites dedans. J'ai cherché de manière assez intensive, mais je n'ai pas trouvé cette chaîne YouTube. Si vous la trouvez, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre en commentaire sur notre page Facebook. Ça nous permettra de recommenter et rediscuter un petit peu de ça. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Surtout si il y a effectivement une sorte de Top Chef médiéval fantastique qui a été créé sur YouTube, ça permettra d'essayer les quelques recettes qui sont présentes et ouais, c'est pas mal, c'est plutôt stylé. Allez, on va se refaire une nouvelle pause musicale avec Half Live Still Feel sur le 101.5 de Radio G.
When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, trying to recognize myself, but I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, trying to recognize myself, I feel I'm replaced. But I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave, 'cause I still feel alive. It is hopeless, I start to notice, and I still feel when I lose my gravity in this sleepy womb, drifting as I dream, I'll wake up soon to realize the end of life reaching out to rip me of my pride. I call allegiance to myself. Ooh, but I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know I'm not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave, 'cause I still feel alive. It is hopeless, I start to notice, and I still feel alive. Falling forward, back in the open. Oh, and I still feel alive. It is hopeless, I start to notice. Floating in outer space, have I misplaced a part of my soul? Lost in the in-between, oh so it seems I'm out of control. Floating in outer space, have I misplaced a part of my soul? Lost in the in-between, but it can't keep me asleep for the long, 'cause I still feel alive.
Sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb, votre dose hebdomadaire de 9e art. Vous venez d'écouter Half Life Still Feel et on va continuer pour les chroniques. Pour ces dernières chroniques, on va partir du côté du comics. On n'a pas encore parlé de comics, donc c'est le moment. Une première publication avec Magic the Gathering Chandra, le tome 1, Les Fantômes de Ravnica, aux éditions iComics, signé Ayala, Tolibao et La Fuente. C'est un comics qui est basé dans l'univers de Magic the Gathering, comme j'ai pu l'annoncer dans le titre. Pour ceux qui ne connaissent pas Magic, c'est un jeu de cartes phénomène qui dure depuis de très nombreuses années, un jeu de cartes, un CCG, un Collectible Card Game, donc un jeu de cartes à collectionner. Donc le principe, ce sont des gens qui achètent des cartes et ils vont se constituer un paquet de cartes de plus ou moins forte puissance, et quand ils vont avoir besoin de nouvelles cartes, ils peuvent acheter des blisters qui comportent un certain nombre de cartes, des rares, des communes, des moins communes, et ces cartes sont mises de manière randomisée dans le sachet, ce qui fait que les échanges sont primordiaux pour pouvoir se constituer un deck de cartes conséquent. J'ai joué à ça quand j'étais adolescent, il y a de ça un certain paquet d'années, et du coup je suis passé un petit peu à côté des dernières éditions. Je sais qu'il y avait une édition qui s'appelait Ravnica et qui a succédé à notre édition derrière. Là, on se centre sur un personnage qui est un planeswalker. Un planeswalker, c'est un personnage qui a la capacité de marcher entre les plans. Si je fais une traduction littérale, cette capacité lui permet de passer sur des réalités alternatives à la sienne, enfin même pas, c'est même pas des réalités, ce sont des plans en fait où sa réalité n'existe pas forcément, et d'interagir avec les gens qui s'y trouvent. Cette capacité de Planeswalker, Chandra Nalar, l'héroïne, était en fait une carte de l'univers magique, et la scénarisation du jeu fait qu'il est possible en fait de raconter des histoires comme celles que nous racontent ces auteurs dans cet album aux éditions iComics. De quoi ça parle en fait? Il faut savoir que Ravnica a chuté. Il y a eu une guerre et il y a eu de nombreuses vies qui n'ont pu être sauvées, et Chandra Nalar souffre d'un petit souci, cette espèce de syndrome de Superman qui fait qu'elle aurait bien voulu pouvoir sauver tout le monde, que sa capacité de Planeswalker lui permet d'interagir de force avec grande force sur tous les plans où elle interagit. Ceci est doublé par ses capacités à manipuler le feu, ce qui lui donne un aspect plutôt stylé, avec des cheveux qui prennent feu de manière assez agréable, et c'est assez stylé, vraiment un chara design plutôt sympa. Et après la chute de Ravnica, elle s'est dit, faut absolument que je sauve les plus faibles, que je sois plus que forte pour pouvoir sauver tout le monde. Malheureusement, même Superman ne peut pas réaliser ce genre de choses, et elle va finir par s'en rendre compte, d'autant plus que elle y a visiblement un démon qui agit dans l'ombre et qui la manipule pour peut-être simplement la torturer. Ça, je vous laisserai le découvrir. Il faut savoir que ce comics est vraiment bien sympa. C'est dessiné par Harvey Tolibao. Au départ, j'avais l'impression qu'on allait avoir un dessin très classique, et en fait ça reste dans la grande veine comics, ne nous démordons pas, mais on a un beau jeu sur les flammes, on a de belles dynamiques, des combats qui sont quand même bien lisibles. Et puis on a une façon de travailler l'émotion du personnage avec les flashbacks qui ne gêne pas quelqu'un qui n'est pas habitué à cet univers de Magic. Alors on se pose des questions, on n'a pas toutes les réponses, ce qui est un petit peu frustrant pour celui qui n'a pas justement toutes ces clés de lecture, mais ça donne envie d'en découvrir plus, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment agréable en fait, d'être propulsé dans un univers inconnu sans forcément être intégralement perdu et tout en ayant envie de continuer un petit peu cette lecture par-delà le tome que l'on a dans les mains. Donc c'est vraiment sympa. C'est une histoire qui, on va dire, est autoconclusive, mais qui peut laisser une grosse ouverture. Il faut savoir que là, c'est noté tome 1, donc de toute façon, il y aura certainement autre chose. Et puis, il faut savoir que toujours chez iComics, il y a La guerre de l'étincelle Ravnica qui est sortie l'année dernière, à peu près mi-juillet, qui nous racontait ce qui se passe avant, du coup, comment Ravnica a chuté. Et ça avait été traduit également en anglais, en version roman. Ce sont des choses qui fonctionnent beaucoup sur tout ce qui est jeux type Warhammer, Magic, des choses comme ça. Il y a beaucoup de séries de romans et ça fonctionne plutôt bien. Donc du coup là, vous avez la possibilité de faire simplement le roman, ou si vous êtes un peu feignant ou que vous appréciez simplement les belles images, et ben vous avez la version BD qui est également disponible aux éditions iComics. Et les romans sont chez Castlemore. C'est le même groupe, hein, ne nous gâchons pas, mais voilà. Donc c'est franchement des choses plutôt agréables à lire. Je vous redonne les références: Magic the Gathering, Chandra, le tome 1, Les Fantômes de Ravnica, c'est scénarisé par Vita Ayala et dessiné par Harvey Tolibao, et c'est aux éditions iComics. Et puis toujours du côté comics, on va partir maintenant plus du côté de l'Angleterre avec un comics signé Mike Mignola et Warwick Johnson-Cadwell avec Rencontre Maléfique aux éditions Delcourt. Qui ne connaît pas Mike Mignola dans la salle? Si vous ne connaissez pas, levez la main, c'est ça. Allez, vous allez me lire un Hellboy ou deux et puis vous revenez dans 5 minutes. C'est inadmissible de ne pas connaître ce génie du comics, ce créateur d'un monument que tout le monde en sens. Je pense que je ne raconte pas de bêtises en disant que tout le monde apprécie Hellboy. Point d'Hellboy dans cette série Rencontre Maléfique. C'est une nouvelle série qui est scénarisée par Mike Mignola et dessinée par Warwick Johnson-Cadwell. Gros boulot de la part de Warwick Johnson-Cadwell, à savoir essayer d'avoir un style approchant celui du dessin de Mike Mignola, sans pour autant faire de plagiat. Il a vraiment réussi à créer un style qui s'en rapproche sans vraiment copier, sans vraiment faire dans la bête copie. Et on a vraiment quelque chose qui est hyper agréable. On retrouve la patte, on retrouve l'univers, on n'est pas perdu. Il y a plein de choses qui fonctionnent, on a beaucoup de codes. Et c'est vraiment une très très bonne, très, très bonne idée. Les couleurs sont à l'avenant. Ça marche très très bien et c'est vraiment super agréable à lire pour les fans de l'univers de Mignola. Rencontre Maléfique est sous-titré Les Mésaventures du professeur J.T. Meinhardt et de son assistant Monsieur Knox, et c'est exactement de cela que ça parle. Le fameux J.T. Meinhardt est un chasseur de monstres, un chasseur de vampires, de loups-garous, autres ghouls, et Monsieur Knox, c'est son fidèle assistant, un petit peu goguenard, un petit peu détendu. Et ils vont affronter plusieurs vampires différents. Et c'est extrêmement intéressant puisque du coup, on a un dépoussiérage et une démystification de manière un petit peu grotesque du mythe du vampire. Et ça marche vraiment très bien. C'est très efficace. On a un côté occulte qui fonctionne, et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de, je sais pas comment l'expliquer, il y a un côté extrêmement absurde. Tout ce que vous connaissez du vampire, faut l'oublier et faut réintégrer certains des petits éléments, et vous imaginez quelqu'un qui s'est amusé à tourner en ridicule certains de ces éléments, ce qui fait que c'est franchement hyper agréable à lire. C'est franchement très drôle. Il y a plein de petites blagues, il y a des petits moments avec de l'émotion aussi, puisqu'il n'y a pas que de l'humour dans cet album, et ça marche vraiment vraiment très bien. J'ai une préférence pour l'histoire qui s'intitule Blackwater et que j'ai trouvé extrêmement drôle en fait, mais je vous laisserai c'est truculent, c'est fou d'inventivité, et ça marche très très bien. Et c'est vraiment très très bon de jouer avec ces figures habituelles, avec ces personnages qui sont bah, l'antithèse de la caricature des personnages qui ont pu être popularisés par Bram Stoker. Et ça fonctionne vraiment très très bien, et c'est un bon plaisir à lire ces fameuses rencontres magiques. Je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes de prévu. J'espère que ces deux héros vont avoir une longue vie et que ce sera quelque chose qui va perdurer dans le temps, parce que ce sera vraiment très 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 très, très sympa. Je redonne les références. Rencontre maléfique, c'est un récit scénarisé par Mike Mignola et dessiné par Warwick Johnson Cadwell, et c'était publié aux éditions Delcourt Comics. That's all, folks. Vous venez d'entendre Porky et vous l'avez compris, il est bientôt l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce nouveau format est quelque chose qui peut vous avoir plu, on peut reproduire ce nouveau format. J'espère que j'ai pas fait trop de E et que ça vous a pas trop gavé. Vous avez vu, il y a plus de musique, il y a plus de choses d'enrobage. Je vais essayer dans les prochaines émissions d'avoir une musique qui correspond à chaque chronique. Alors je vais essayer de ne pas faire une chronique une musique, parce que du coup ce serait une émission avec beaucoup beaucoup de musique, quoique ça peut être intéressant comme histoire. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à nous en faire part dans la page Facebook que vous trouvez sur Facebook, la case de Seb. Et puis si éventuellement vous avez envie d'intervenir dans cette émission, bah, n'hésitez pas non plus, hein, c'est aussi votre émission. Si vous avez des envies, des chroniques, si vous avez aimé certains albums, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra vous donner notre avis. Le but de cette émission, c'est effectivement de vous faire découvrir des albums. On n'est pas des critiques hors pair, on vous parle de choses qu'on a bien aimées, dans le but que vous aussi vous puissiez les découvrir et les aimer. C'est déjà pas mal. On va quand même se quitter, il est quasiment 20h. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. À la semaine prochaine.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Kitty, kitty, mama made us for you.
you're not careful, you'll be gone in the blink of an eye. No bones or remains, but that won't change the fact that dawn sure ain't coming back. But you can't prosecute, there's just no use, there's nothing left but tiger tracks. Oh, kitty, 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 mama's got some treats for you. Oh, yeah, kitty, kitty, you can't find this place in the zoo. Oh, yeah, kitty, kitty, mama carrots, she sure loves you. Oh, yeah, kitty, kitty, mama made this for you. Oh, yeah, kitty, kitty, mama's got some treats for you. Oh, yeah, kitty, kitty, you can't find this place in the zoo. Oh, yeah, kitty, kitty.